Première lecture, nous avons entendu un extrait du livre d'Esther. Il s'agit du seul passage de ce livre qu'on entend durant toute l'année liturgique. Je vous disais hier, en référence avec l'extrait du livre de Jonas, comment ce livre visait à sensibiliser le peuple de Dieu par rapport au risque des nationalismes, c'est-à-dire de mettre toutes ses énergies sur nos propres caractéristiques et de rejeter l'étranger ou ceux qui sont différents de nous. Dans le livre d'Esther, nous avons une position qui est totalement opposée à celle-là parce qu'elle nous met en présence d'une situation qui est totalement différente aussi. Je lisais hier un commentaire par rapport au livre d'Esther et certains juifs philosophes contemporains considèrent que les événements qui sont rapportés dans le livre d'Esther sont un premier exemple de ce que c'est l'antisémitisme. Donc, de rejeter le peuple élu simplement parce qu'il est, parce qu'il existe. On veut l'éliminer. Et c'est exactement ce dont il s'agit avec le livre d'Esther. Ce sont les événements qui... Le livre d'Esther nous raconte des événements plus ou moins historiques qui se seraient produits après le retour du peuple d'Israël de Babylone. Donc, l'Empire perse est venu à bout de l'Empire de Babylone et ainsi le peuple d'Israël a été en mesure de retourner en grande partie à Jérusalem. Cependant, ce ne sont pas tous les Juifs qui étaient en diaspora, c'est-à-dire à l'extérieur, qui ont décidé de retourner en Israël. Un certain nombre d'entre eux s'étaient déjà établis depuis 2-3 générations dans les lieux où ils étaient. Et c'était le cas dans l'Empire perse, dont la capitale était Suse, la citadelle. Les Juifs occupaient ce territoire, mais contrairement à d'autres, bien qu'ils aient gardé leur tradition, ils se mélangeaient très bien avec la population locale. Il n'y avait pas moyen de les distinguer des autres, comme c'était le cas dans d'autres endroits de l'Empire. Toujours est-il qu'il y avait à l'intérieur de cet empire un roi qui était assez bienveillant, dont il avait un intendant qui détestait en particulier un citoyen de la ville, Mardoché, qui était juif. Mardoché avait une parente qui se trouve à être Esther et qui était d'une grande bonté. Aman, qui était l'intendant du roi, décide par arme, mépris et haine contre les Juifs de les faire exterminer. Cependant, les événements ont permis que Esther devienne l'épouse du roi Assyrius. Et donc, elle est proche, assez proche du roi. Et alors que le décret a été publié pour l'extermination de tous les Juifs du royaume, Mardoché entre en contact avec Esther et tous les deux s'entendent qu'ils doivent essayer de changer le cœur du roi. Et ainsi, Mardoché, Esther et tout le peuple juif du royaume va se mettre en prière, va se mettre dans le jeûne pour réussir à changer le cœur du roi. C'est dans ce contexte que nous avons entendu un extrait d'une prière que Esther adresse au Seigneur en demandant qu'il vienne bien toucher le cœur du lion. Ce lion, il s'agit bien du roi. Et de fait, il mérite d'être souligné ces dernières paroles de la prière qu'Esther adresse au Seigneur et qui sont présentées dans la lecture de ce jour et avec lesquelles on peut très bien se sentir très à l'aise et les faire nôtres. Libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. On a juste envie de dire Amen, n'est-ce pas? Alors, dans l'Évangile, on entend un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu et Jésus. On ne sera pas étonné que les deux textes se répondent l'un l'autre, nous sommes durant le temps du carême. au moment de décider des textes, ça a été voulu. Donc, clairement, Jésus, ici, dans ce texte de l'Évangile selon saint Matthieu, nous parle de la prière. Alors, dans la mesure où une prière est présentée dans la foi et dans la confiance, on sait qu'on va être exaucé. Il suffit juste de demander. Jésus lui-même va le dire ailleurs dans l'Évangile. Vous diriez à cet arbre de se déciraciner, d'aller se planter dans la mer, et il vous obéirait. Cependant, il y a une petite note, il y a une petite recommandation que Jésus fait à la fin de l'Évangile, qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, hein? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, n'est-ce pas? La règle d'or qui n'est pas vraiment nouvelle. Elle existait déjà dans le judaïsme et elle existait chez d'autres auteurs de l'Antiquité, mais sous une forme négative. Ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne les faites pas pour eux. Donc, ça aussi, on est très d'accord avec ça, surtout quand on est les premiers concernés. Mais la nouveauté avec le christianisme, avec Jésus et les auteurs chrétiens qui vont répéter cette règle d'or, c'est au niveau positif. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Et ça amène, quand on pense à la prière, des idées très intéressantes. Pensons-y. Si on désire la guérison pour nous-mêmes, si on a un mal physique qui nous afflige, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter un peu de guérison pour les autres? Si on a besoin d'être pardonné de quelque chose, si on désire que quelqu'un s'excuse pour un mal qui nous a été fait, est-ce que ce n'est pas une invitation nous-mêmes à pardonner à quelqu'un d'autre? Et si on désire être aimé, hein, et qu'on nous le dise, hein, est-ce que ce n'est pas une invitation à dire à quelqu'un d'autre qu'on l'aime, qu'on aime les gens qui sont autour de nous? Et si on désire avoir une certaine forme légitime de sécurité matérielle, on veut être certain de ne rien manquer, hein? Pas manquer de nourriture, de toujours avoir un toit, de toujours pouvoir répondre à notre propre subsistance, est-ce que ce n'est pas une invitation à avoir le même souci les uns pour les autres et d'être capable de partager avec les autres? Voyez donc comment cette règle d'or donne un éclairage nouveau par rapport au sens de la prière que Jésus nous offre dans l'Évangile. Et en temps de carême, ça fait du bien d'entendre cette parole-là. Je vous invite ce matin à réfléchir, chacun pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on voudrait que quelqu'un nous dise aujourd'hui? Sommes-nous prêts à dire cette même parole pour les gens autour de nous?